Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Comme vous le savez, c'était dimanche dernier, au soir, que nous sommes arrivés au message final de l'épître de Jude, cette déclaration merveilleuse avec laquelle Jude ferme sa lettre. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Et Jude a refermé son épître avec cette excellente déclaration, à savoir que nous sommes préservés de toute chute, nous sommes gardés par Dieu, et Dieu par conséquent mérite toute la gloire, et cela nous introduit à une doctrine connue comme la persévérance des saints. La persévérance des saints. Les vrais croyants persévéreront dans la foi jusqu'à la fin. Souvent, cette doctrine s'appelle la doctrine de la sécurité éternelle. Parfois, on dit d'une façon plus ou moins cryptique, une fois sauvé, sauvé pour toujours. Et bien sûr, c'est vrai. Je veux que vous compreniez qu'il s'agit d'une doctrine historique. J'ai souligné la dernière fois que c'est le composant le plus important du salut. Parce que si le salut n'était pas permanent, la doctrine de l'élection serait remise en cause. La doctrine de la justification serait remise en cause. La doctrine de la sanctification serait questionnée. Et la doctrine de la glorification serait remise en cause. L'appel de Dieu serait remis en question. Et par conséquent, l'œuvre du Père, du Fils et de l'Esprit serait aussi remise en cause. Et donc, ce qui lie ensemble les doctrines du salut et les maintient, c'est l'éternité du salut, la persévérance des saints. Et c'est là la doctrine historique de la véritable Église. C'était en 1644, à l'abbaye de Westminster, cette célèbre église londonienne. Une salle à l'intérieur de l'abbaye était appelée la salle de Jérusalem. Le groupe réuni en cette année de 1644 était un rassemblement des meilleurs esprits théologiques et des meilleurs érudits en matière biblique d'Angleterre. Les puritains étaient alors la force dominante. Les puritains, bien connus comme les amoureux des Écritures, amoureux de Dieu, amoureux du Christ, amoureux de la vérité. Et ces puritains se sont rassemblés, environ une centaine d'entre eux, avec des seigneurs et des roturiers. Et ils ont entrepris durant 5 ans d'efforts, 5 ans d'études intenses des Écritures, 5 ans de dialogue intense, 5 années d'efforts scolastiques intenses, 5 ans de discussion, 5 ans pour produire un document doctrinal. 5 ans plus tard, en 1649, ils ont complété leur tâche, et ce qu'ils ont produit est connu sous le nom de Confession de foi de Westminster. La Confession de foi de Westminster, des puritains connus comme Thomas Goodwin, James Usher, J. Lightfoot, Samuel Rutherford, Jeremiah Burroughs et le président de ce groupe, un homme nommé Twiss, ont travaillé durant ces 5 années pour produire ce qui est devenu la plus importante croyance chrétienne appelée la Confession de foi de Westminster. Dans cette croyance, entre autres, il existe une déclaration sur la garantie du salut, sur le fait que le salut est éternel. Ceci, ils en étaient convaincus, était ce que la Bible enseignait. Ils ne l'ont pas appelé la garantie du salut. Ils l'ont appelé persévérance, et ils l'ont bien nommé. Dans la Confession de foi de Westminster, il y a une déclaration brève et sans équivoque. La Confession dit ceci, et je cite, « Ce que Dieu a accepté en son Fils bien-aimé, qu'il a efficacement appelé et sanctifié par son Esprit, ne peuvent déchoir de l'état de grâce, ni entièrement, ni définitivement, mais ils y persévéreront certainement jusqu'à la fin. » Et seront éternellement sauvés. C'est la déclaration bibliquement précise et bien résumée de la persévérance des saints dans la Confession de foi de Westminster. Et franchement, cette déclaration ne nécessite aucune modification. Elle n'a pas besoin d'être modifiée. Dans sa forme actuelle, elle est bibliquement précise. Quiconque a été accepté dans le Fils bien-aimé de Dieu, appelé efficacement au salut et sanctifié par l'Esprit, ne peut ni disparaître totalement, ni définitivement de l'état de grâce. Mais ils y persévéreront certainement jusqu'à la fin, et seront éternellement sauvés. Ceci est confirmé, bien sûr, par de nombreuses Écritures. Ce n'est pas comme s'ils avaient dû scruter longuement les Écritures pour trouver des passages qui en attestent. Ce n'était qu'un des éléments qu'ils s'étaient engagés à clarifier durant ces 5 années. Des passages, donc. Par exemple, comme dans Jean 5, verset 24. « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Jean 3, 16 et 18. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit en lui n'est point jugé. » D'autres passages qui vous sont peut-être aussi familiers. Jean 6, versets 37 à 39. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Nous avons une œuvre majeure qui nous montre que personne ne passe au travers des mailles du filet du salut. Celui que le Père choisit, quelle que soit la personne qu'il guide, il la guide vers le Christ. Et celui qui est guidé vers le Christ vient à lui. Et lorsqu'il vient, Christ l'accueille, le garde et l'accompagne jusqu'au jour dernier. La même chose est énoncée autrement par Jésus, dans Jean 10, des versets 27 à 29. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Il souligne ici la sécurité du croyant. Il sait qui nous sommes. Il nous tient dans sa main. Le Père nous tient dans sa main, et personne ne peut nous en sortir. Beaucoup d'autres Écritures sont dignes de notre attention. Je pense à Jean 4, verset 14. « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Une fois que le puits est ouvert, il ne tarit jamais. C'est une source de la vie éternelle. » Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 8, nous lisons que ceux qui sont en Christ seront affermis aussi jusqu'à la fin, pour qu'ils soient irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes affermis jusqu'à la fin, et nous serons trouvés irréprochables leur venue. Eh bien, et si on péchait? En fait, nous péchons déjà, mais nos péchés, ayant été couverts par le Christ, nous laissent irréprochables. Et le verset 9, si important, nous dit « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé, afin de vous affermir jusqu'à la fin et de vous rendre irréprochables en sa présence éternelle. » Et à nouveau, dans 1 Thessaloniciens 5, versets 23 à 24, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé, irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Il y a là la même affirmation que Dieu qui vous a sanctifié vous conservera intact, irréprochable, lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset suivant, le verset 24, dit « Celui qui vous a appelé est fidèle. » Et c'est lui qui le fera. Il était fidèle pour vous appeler au salut. Il sera fidèle pour vous préserver, jusqu'à ce que votre salut soit complet. Et je vous rappelle à nouveau 1 Jean 2, verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé, afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Les vrais fidèles restent, demeurent et subsistent, non pas parce qu'ils ont le pouvoir de le faire eux-mêmes. Ils ne l'ont pas, comme je l'ai dit la semaine dernière, mais parce que le même Dieu qui les a appelés, le même Dieu qui les a rendus justes, le même Dieu qui les sanctifie, a promis de les glorifier. La confession de Westminster affirme rigoureusement que la foi salvatrice ne peut échouer. Elle ne peut pas échouer. Et à ce stade, je pense qu'il est crucial de comprendre ce qu'est la persévérance des saints. Cela nous aidera à comprendre ce que cela signifie. Premièrement, cela ne signifie pas que les chrétiens n'échouent jamais. Cela ne signifie pas que les chrétiens n'échouent pas réellement et sévèrement dans leur vie chrétienne. Nous le faisons. Ce que cela signifie, c'est ce que la confession dit, c'est-à-dire qu'ils n'échouent complètement ou définitivement pas. Nous échouons, oui. Nous échouons sévèrement, oui. Nous échouons à plusieurs reprises, oui. Nous échouons complètement, non. Nous échouons définitivement, non. La confession de Westminster se poursuit ainsi, et je cite encore. Néanmoins, à cause des tentations du diable et du monde, de la prédominance de ce qui reste en eux de corruption et de leur négligence des moyens de sauvegarde, les saints peuvent tomber dans de graves péchés et y demeurer un certain temps. Ils provoquent de la sorte le déplaisir de Dieu et attristent son Saint-Esprit. Ils en viennent à se priver, en quelque mesure, de leur grâce et de leur soutien. Ils ont le cœur endurci et la conscience meurtrie. Ils blessent et scandalisent les autres, et ils appellent sur eux-mêmes des jugements temporels. Les auteurs de la confession de Westminster ont compris que cela ne veut pas dire que nous sommes parfaits. Dire que nous persévérons ne veut pas dire que nous sommes parfaits. La corruption reste en nous. Ce serait négliger le rôle qu'apporte la grâce de prétendre le contraire. Le péché et son renouvellement sont un obstacle constant. Il y a le mécontentement de Dieu, l'affliction de l'esprit, apportant sur nous la privation de certaines actions de grâce et de consolation. Il y a la réalité du péché douloureux et de la conscience blessée, qui ne fonctionne pas comme il se doit. Il y a la réalité des blessures et des scandales infligés aux autres dans l'Église et à l'extérieur, et le fait de s'infliger des jugements temporaires et de la discipline. En d'autres termes, la persévérance ne signifie pas la perfection. Ce n'est pas ce que nous disons. En fait, il n'y a pas de perfection ici-bas. Et cela, en un sens, nous décrit donc tous d'une manière ou d'une autre. Donc, lorsque nous disons que les croyants persévèrent, nous ne parlons pas de perfection. Nous ne parlons pas d'atteindre un état de tranquillité. Nous parlons de persévérance dans la foi, qui ne va pas sans échec. Deuxièmement, il est important de comprendre que non seulement la persévérance ne signifie pas la perfection, mais cela ne veut pas dire non plus que quiconque accepte le Christ peut vivre de la manière qu'il affectionne sans craindre l'enfer. Il ne suffit pas d'avoir une foi superficielle en Christ. Il ne suffit pas d'avoir un engagement superficiel envers le Christ, un intérêt superficiel pour le Christ. Il ne suffit pas d'avoir de bons sentiments à propos de Jésus et de prendre un engagement momentané envers lui. Ce n'est pas ce que dit la confession de Westminster, et c'est pourquoi c'est important. La bonne façon de décrire cette doctrine est la persévérance des saints, plutôt que la sécurité éternelle. Ce n'est pas seulement que nous soyons éternellement sauvés, c'est que nous sommes éternellement sauvés grâce à la persévérance de notre foi. Dans Jean 8, versets 31-32, Jésus nous dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Les vrais disciples demeurent dans la foi, et ils ne vivent pas comme des non-croyants. Nous sommes soutenus par ses fruits, vous le savez, comme le dit Éphésiens 2, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Une personne qui a accepté Jésus, qui s'est décidée pour Jésus, qui a dit une prière, et continue de vivre avec un mode de vie pécheur, sans crainte de l'enfer, parce qu'il pense qu'il est éternellement sauvé, se trompe. C'est pourquoi nous devons faire attention lorsque nous parlons de la doctrine de la salvation éternelle, comme si une simple prière nous rendait à jamais saufs. Et en passant, c'est ce qui est enseigné par beaucoup de gens. Toutes ces personnes qui nient la doctrine de la souveraineté du Christ, tous ces détracteurs affirment qu'une seule prière faite une unique fois vous rend éternellement saufs, et ce sans persévérance. C'est une fausse interprétation de ce que l'Écriture enseigne. Et c'est pourquoi j'ai écrit le livre « L'Évangile selon Jésus » et le suivant « L'Évangile selon les apôtres ». Ceci n'est pas vrai. Parler du salut du croyant n'est pas quelque chose de mauvais en soi. Nous sommes sauvés. Mais l'autre expression est plus prudente, plus précise. Il n'est pas vrai que quelqu'un soit sauvé, peu importe combien cette personne vit dans le péché, peu importe combien elle se tourne contre le Christ et le nie de façon flagrante. Comme beaucoup le disent, le salut n'est une réalité qu'en raison de la persévérance. Un croyant peut pécher, comme je l'ai dit, pécher gravement, pécher à plusieurs reprises, mais il ne s'abandonnera pas au péché. Il ne reviendra pas sous la domination totale du péché. il ne perdra pas la foi en Christ, et il ne niera pas son Seigneur ni l'Évangile. Aucun véritable croyant ne fuira la sainteté pour embrasser le péché en même temps. 1 Jean 3, verset 10, nous dit très simplement, « C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. » C'est aussi simple. « Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. » Et le verset antérieur dit, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ce n'est pas le modèle ininterrompu de votre vie. » Donc, il ne suffit pas de vous dire que si vous avez dit une simple prière une fois, que vous avez pris une décision à un moment donné, peu importe la façon dont vous vivez, peu importe vos choix de vie, peu importe si vous reniez le Christ à un moment donné, vous serez toujours éternellement sauvé. Non, la doctrine du salut du croyant est liée à la persévérance de sa foi. La doctrine de la persévérance est donc la suivante. Pour votre salut, on vous donne une foi surnaturelle venant de Dieu, afin que vous croyiez l'Évangile, que vous croyiez au témoignage du Saint-Esprit concernant le Christ, et donc que vous croyiez en Christ et que vous veniez au Christ. Vous en êtes donc par là même arrivé à connaître le Dieu vivant et véritable. Cette foi est un don surnaturel de Dieu. C'est un don de grâce, et c'est un don de miséricorde. À nouveau, dans Éphésiens 2, versets 8 à 9, on nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La grâce vient de Dieu, et la foi aussi. Et quel genre de foi vous donne-t-il? Une foi temporaire? Si la foi salvatrice est un don de Dieu, alors, quel genre de cadeau Dieu vous donne-t-il? Il ne vous donnerait pas un don de foi temporaire. Et si votre salut dépendait d'une foi humaine, je vous promets qu'elle disparaîtrait. Et c'est ce que j'ai dit la semaine dernière. Si nous pouvions perdre notre salut, nous le perdrions. C'est pourquoi Jésus a dit, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Vous pouvez savoir qui sera sauvé. Vous pouvez dire qui sont ceux qui recevront le salut complet dans la prochaine vie. Ce sont ceux dont la foi durera jusqu'à la fin, parce que c'est une foi durable. C'est le genre de foi que Dieu donne, très différente de la foi humaine, vraiment différente. Je peux vous donner une illustration simple de la manière dont la foi humaine fonctionne. Nous vivons par la foi humaine. Je veux dire, nous vivons la foi humaine tous les jours de notre vie. Vous allez dans un restaurant, vous commandez quelque chose et vous le mangez. C'est un acte de foi, salé. Vous ne savez pas ce que vous mangez, vous ne savez pas quels ingrédients ont servi à le préparer. Vous ne savez pas d'où cela vient. Vous ne savez pas dans quel état se trouvent vos ingrédients. Vous ne savez pas qui l'a préparé. Vous n'en avez aucune idée. Ils ont mis quelque chose dans un verre et vous l'avez bu. Ils vous disent ce que c'est. Mais vous ne pouvez pas être sûr de ce que c'est. C'est un acte de foi. Bien plus que cela, vous allumez votre robinet à la maison, vous remplissez le verre et le buvez, et vous n'avez aucune idée de ce qui se passe dans vos tuyaux. C'est un acte de foi. Vous montez en voiture, vous tournez la clé, et vous déclenchez une série de 4 à 8 explosions. Et vous ne craignez pas d'exploser, même si vous avez un moteur à combustion interne, juste au niveau des genoux. Vous vous lancez sur l'autoroute, à 110 à l'heure, à plein régime, ne vous attendant pas du tout à croiser un semi-remorque descendant à contresens sur votre voie. C'est un acte de foi. Vous allez chez le médecin et vous dites, « Docteur, endormez-moi, ouvrez-moi, et retirez tout ce que vous voulez. » Vous ne connaissez pas le médecin, ou qui que ce soit d'autre dans la pièce, et vous n'avez aucune idée de ce qu'ils font là-dedans. Je dirais que c'est un acte de foi assez considérable. Nous vivons la foi tout le temps. Tout le temps, mais il y a une raison à cela. C'est une foi venue de notre éducation. C'est une foi humaine, venue de l'habitude. Nous sommes là depuis assez longtemps pour savoir que les moteurs ne vont pas exploser. Nous sommes là depuis assez longtemps pour savoir que les médecins prennent généralement la bonne décision et ne laissent pas leurs outils à l'intérieur lorsqu'ils ont fini. Nous sommes là depuis assez longtemps pour savoir que la nourriture que nous commandons est correcte, parce que nous l'avons mangée pendant des années, et que boire l'eau du robinet ne pose pas de problème, puisque nous la consommons depuis des années. C'est donc une sorte de foi humaine issue de l'éducation et de l'habitude. Mais quand il s'agit de mettre votre foi en Jésus-Christ, vous devez absolument vous renier, vous abandonner complètement à quelqu'un que vous n'avez jamais vu, ni jamais rencontré, et que vous ne pourrez pas connaître ou rencontrer, jusqu'à ce que vous en veniez à cet abandon complet. Cela exige une foi qui dépasse la foi humaine normale. Cela exige une foi qui soit un don de Dieu, une foi surnaturelle. Et la seule sorte de foi que Dieu donne est une foi persévérante. Vous ne pouvez pas rassembler votre propre foi pour être sauvé, et vous ne pouvez pas non plus rassembler votre propre foi pour rester sauf. Et si vous dépendiez de votre propre foi, elle vous trahirait lorsque Dieu ne fait pas ce que vous pensez qu'il fera, lorsqu'il ne prend pas soin de votre vie comme vous le pensez, ou lorsque vous vivez vos nombreuses déceptions, tragédies et chagrins, etc. Votre foi humaine deviendra de plus en plus faible, et vous commencerez à remettre toutes sortes de choses en question, parce que votre vécu ne sera pas supportable, du moins selon vous, que ce que vous attendez de la part de Dieu, et plus particulièrement encore si quelqu'un vous a dit « Venez à Jésus, et tout sera merveilleux ». C'est le don de la foi surnaturelle donnée par Dieu, qui vous permet d'endurer les choses, afin que vous croyiez, même lorsque tout ne se passe pas comme vous le pensiez. Cette foi durable est inexplicable humainement. Elle est inexplicable humainement. Elle a accompagné les martyrs tout au long du chemin, jusqu'à leur fin, jusqu'à la guillotine, jusqu'à la perte de tout ce qu'ils avaient. Ce n'est pas explicable humainement. Le salut en Christ est donc lié à une foi persévérante qui dure jusqu'à la fin. Et toute idée de salut qui exclut la sécurité est une distorsion de la vérité. Et toute idée de sécurité qui exclut la persévérance est une distorsion de la vérité. Vous ne pouvez pas obtenir le salut sans sécurité. Vous ne pouvez pas obtenir la vie éternelle qui ne soit pas éternelle, ni un salut certain sans une foi persévérante. Donc cela signifie clairement que nous ne sommes pas parfaits, mais cela signifie aussi que nous persévérons. Et il ne suffit pas d'une prière unique, puis le choix de vivre comme un non-croyant le reste de notre vie et de croire que vous êtes sauvés pour que vous soyez en sécurité. C'est une terrible erreur. Je le répète, toute idée du salut qui exclut la sécurité est une distorsion de la vérité. Et toute idée de sécurité qui exclut la persévérance est une distorsion de la vérité. En fait, il y a tellement de textes à étudier à ce sujet, mais permettez-moi de vous proposer un texte qui, selon moi, sera très utile pour nous. Ouvrez votre Bible à 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. C'est un texte très très riche et complet. C'est un texte qui défile facilement devant vos yeux. Mais je veux que vous vous concentriez sur les versets 3 à 9. Versets 3 à 9. Et je veux vous les lire. Cela vient comme une sorte de doxologie, tout comme la fin de Jude, et c'est une déclamation des glorieuses bénédictions de Dieu pour notre salut éternel. Écoutez ce que Pierre écrit. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Voici la phrase clé. À vous qui êtes gardés par la foi. Vous pouvez le souligner. C'est le cœur du message. Pierre bénit Dieu pour sa protection divine. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Notez maintenant que ces deux choses sont liées ensemble. Nous sommes protégés pour recevoir cet héritage éternel, et cette protection nous vient par la foi. Verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Bien sûr, qui ne le serait pas? Vous vous réjouissez vivement d'être protégé. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristé pour un peu de temps par diverses épreuves, et nous y voilà, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. À présent, je veux juste vous mener au cœur du passage, verset 5. Vous êtes protégés, et vous êtes protégés par la foi, verset 5. Verset 8. Vous croyez sans le voir encore. Encore une fois, l'accent est mis sur la foi. Verset 9. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Il veut dire par là le salut final, la glorification. Vous voyez cette question de sécurité, d'être protégé, est liée à une foi durable. Maintenant, avant de regarder les détails de ce passage, je voudrais simplement vous donner une image plus large. Je ne pense pas que je pourrai tout évoquer ce soir. Alors nous terminerons dimanche soir prochain. Ou peut-être que nous terminerons le dimanche soir suivant. Je ne sais pas. Cela a été écrit par Pierre. Maintenant, permettez-moi de m'arrêter et de parler de Pierre. Nous connaissons tous Pierre, n'est-ce pas? Si quelqu'un, Si n'importe qui devait écrire un traité sur la persévérance des saints, ce serait Pierre. Vraiment, il est la bonne personne pour témoigner de la persévérance. Parce que s'il y avait une personne du Nouveau Testament qui était constamment confrontée à l'échec, qui était-ce? C'était Pierre. C'était véritablement l'homme qui devait écrire ces mots. Parce que c'était l'homme qui a le plus souvent expérimenté la protection d'une foi persévérante. Je suppose que dans son cas, c'était une sorte de foi qui le relevait. Basé sur le récit des évangiles, aucun des disciples de notre Seigneur, sauf Judas bien sûr, n'a échoué plus misérablement que Pierre. Impétueux, capricieux, ambitieux, égoïste, vacillant, faible, lâche, têtu. À plusieurs reprises, il a reçu de sévères réprimandes du Seigneur. Aucune plus sévère, je pense, que dans Matthieu 16 au verset 23, où Jésus le regarde droit dans les yeux et lui dit « Arrière de moi, Satan !» Ça, franchement, c'est le pire. Lorsque le Seigneur vous identifie comme l'outil de Satan, vous avez sérieusement trébuché. Et vous vous souvenez que ce point le plus bas s'est produit presque immédiatement après le point culminant de sa vie, évoqué dans le même chapitre, au verset 16, où il dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus dit « Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Mais Pierre est cet excellent exemple de haut et de bas, de l'extrême haut et de l'extrême bas. Pierre est la preuve qu'un véritable croyant peut trébucher, trébucher sérieusement, qu'il peut échouer et échouer sérieusement, qu'il peut être faible et lâche et se renier temporairement, mais parce qu'il a été protégé par une foi durable, produite dans son cœur par le travail souverain de Dieu, il n'échoue jamais complètement et il n'échouera jamais à la fin. Peu de temps après ce déni, il est sorti et a fait quoi? Il a pleuré amèrement, voulant désespérément être racheté. Jésus a lui-même dit dans Luc 22 que cela se produirait. Il lui a dit dans Luc 22, verset 31, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Comprenez-vous que Satan ne peut rien faire à personne, à moins qu'il ait la permission. Satan est le serviteur de Dieu. Il ne peut rien faire d'autre que ce que Dieu lui permet de faire. Il voulait mettre Pierre en pièce, parce qu'il savait combien Pierre était important pour la mission de l'Évangile. Mais regardez au verset 32. C'est quelque chose à souligner, les amis. Quelque chose à ne jamais oublier. Luc 22, verset 32. Écoutez. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, pour vous secouer, pour savoir si vous êtes sincère. J'aime ça. Verset 32. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Waouh! Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et je vais vous dire quelque chose. Si Jésus a prié ainsi, alors c'est ce qui s'est passé. Sa foi n'a pas défailli. Pierre, vous savez, pensait que le Seigneur ne comprenait pas combien il était fort. Pierre pensait qu'il était bien, et il en témoigne au verset 33. « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison et à la mort. » Et Jésus répond, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui, que tu n'aies renié trois fois de me connaître. » Jésus a laissé cela arriver. Satan n'aurait pas pu tenter Pierre si le Seigneur ne l'avait pas permis. Et il l'a permis, sachant que la foi de Pierre ne pouvait pas échouer, parce qu'il priait que sa foi ne défaille pas. Et sa prière est toujours entendue et obtient toujours une réponse du Père, parce que Jésus prie toujours selon la volonté du Père, de même que l'Esprit intercède selon la volonté du Père. Vous me direz, mais enfin, pourquoi a-t-il laissé cela arriver? Pour que le procès révèle à Pierre le caractère persévérant de sa foi. Le Seigneur n'avait pas besoin de savoir que sa foi était réelle, mais Pierre, lui, en avait besoin. Et je vous dirai pourquoi plus tard dans le texte. Vous me direz, ok, d'accord, le Seigneur a prié pour que la foi de Pierre ne défaille pas. Qu'en est-il de nous? Ouvrez dans Jean 17. Ouvrez Jean 17. Là, vous avez le Seigneur qui prie. C'est la grande prière sacerdotale. Et nous prenons à partir du verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Jésus prie pour les croyants, pas seulement ceux qui étaient vivants à l'époque, mais aussi ceux du futur. Puis au verset 11, « Je ne suis plus dans le monde. » Ils pressentaient qu'il allait partir. Et ils sont dans le monde. Je vais devoir les quitter ici. Et je vais à toi, Père Saint, dit-il. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient comme nous. Waouh, quelle oraison incroyable! Père, garde-les. Pas seulement Pierre. Il n'y a pas que la foi de Pierre qui a été gardée, mais aussi celle de tous les autres. Garde-les tous, tous ceux que tu m'as donnés, tous les élus, tous les justes, tous les sanctifiés. Garde-les, garde-les en ton nom, en accord avec ce que tu es, le grand, le puissant, le tout-puissant, l'omniscient, Dieu gardien, afin que tous ensemble, nous ne fassions qu'un dans la gloire de ce jour, où toute l'humanité rachetée sera rassemblée en ta présence. Plus précisément, allez jusqu'au verset 15. Jésus poursuit sa prière en disant ceci. « Je ne te prie pas de les ôter du monde. Nous avons besoin d'eux dans le monde pour évangéliser, mais de les préserver du mal. Voici Jésus intercédant comme notre grand prêtre, en notre nom, demandant au Père de nous garder, de nous bénir, de nous protéger, afin que notre foi ne défaille pas. » Verset 17, il ajoute « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Verset 18, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Jésus dit ceci, « Père, je veux que tu leur montres ta gloire, je veux que tu les amènes à la gloire éternelle, je veux que tu les protèges, je veux que tu les entoures, je veux que tu les gardes, je veux que tu t'assures que leur foi ne défaille jamais, de sorte que tous ensemble, nous ne faisions qu'un dans la gloire éternelle, comme cela a été prévu et destiné lors de la fondation du monde, lorsque tu as mis ce plan rédempteur en marche. Garde-les du malin, sanctifie-les par ta parole, amène-les à la gloire éternelle, afin qu'ils puissent la partager avec nous, et pas seulement cela, nous dit le verset 20, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Et vous et moi sommes inclus dans ce verset. Verset 20. Parce que nous croyons par les mots qui ont été écrits par les apôtres. Donc, vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ intercède pour Pierre, comme illustré dans Luc 22. Ce n'est pas une bizarrerie, ce n'est pas une exception. C'est la même intercession qu'il prononce dans Jean 17. Et ce n'est pas seulement pour les apôtres, mais pour tous ceux qui croient que le Père les gardera et les amènera à la gloire éternelle, intacte, comme faisant partie de lui et du Fils. Et en passant, ce n'était pas seulement une prière momentanée que Jésus a offerte ici, dans Jean 17, lorsqu'il était dans le jardin cette nuit-là. Il prie comme ça aujourd'hui, et tous les jours, et tout le temps. Hébreux 7, verset 25 nous dit. Écoutez ce grand verset. Hébreux 7, verset 25 nous dit. Il peut sauver parfaitement. C'est ce que cette phrase veut dire. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Voici pourquoi. Étant toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. Cette prière dans Jean 17 est une prière que Jésus continue de faire, en tout temps, notre grand prêtre, à la droite du Père, qui, intercédant pour nous, est capable de nous sauver pour toujours, car il vit toujours pour intercéder en notre faveur. Nous sommes gardés par une foi durable, soutenue et maintenue jusqu'à la fin par l'intercession du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, le Saint-Esprit contribue à ce même grand ministère. Romains 8 nous dit que le Saint-Esprit aide nos faiblesses. Nous ne savons pas comment prier comme il le faudrait, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Cela n'a rien à voir avec le parler en langue ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas ce que vous dites, c'est ce que dit l'Esprit-Saint. Et ce n'est pas dans quelque chose qui peut être entendu, c'est quelque chose qui n'est pas prononcé. C'est une communion silencieuse, privée, intérieur, trinitaire, où l'Esprit intercède pour nous avec des gémissements trop profonds pour être des mots. Il n'y a pas de mots, c'est l'Esprit qui intercède en notre nom. Et celui qui sonde les cœurs, c'est Dieu, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède, en faveur des saints. Ainsi le Christ prie selon la volonté de Dieu, afin que notre foi ne défaille pas, que le Père nous garde. L'Esprit prie selon la volonté de Dieu, et en conséquence, toute chose, verset suivant, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés, selon son dessein. L'intercession de Christ garantit notre gloire future. L'intercession du Saint-Esprit garantit notre gloire future. Et le but du Père garantit notre gloire future, du fait qu'il nous connaît bien, qu'il nous a prédestinés, qu'il nous a appelés, qu'il nous a justifiés, qu'il nous glorifiera selon que son but, au début, était de nous conformer à l'image de son Fils. Il ne nous a pas sauvés pour une entreprise temporaire. Il nous a sauvés afin que nous nous conformions à l'image de son Fils dans la gloire éternelle, afin de nous donner la sainteté du Christ. Quand vous pensez au paradis, ce n'est pas que nous ressemblerons physiquement à Jésus, c'est que nous serons comme Jésus en termes de sainteté parfaite. Nous avons été choisis, appelés, justifiés, sanctifiés et glorifiés. Nous sommes gardés jusqu'à cette heure, et nous sommes gardés par une foi durable, soutenue par le travail d'intercession de Jésus-Christ, qui prie que nous soyons protégés de tout ce qui ébranlerait cette foi, que ce soit la chair, le monde ou Satan lui-même. Et ajoutez à l'intercession, à la droite du Père Céleste, il y a l'intercession du cœur provenant du Saint-Esprit, qui prie d'une manière que nous ne connaissons même pas, dans une communion intérieure, trinitaire et silencieuse, pour que la volonté de Dieu se réalise. Et Dieu entendant et répondant à cette prière, fait que tout fonctionne bien, tout, et nous sommes soutenus par notre foi surnaturelle, qui nous a été donnée par Dieu. Et quand Jésus a dit à Pierre, « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point », il lui dit ce qui est vrai pour nous tous, « Le Seigneur intercède pour nous, afin que notre foi perdure ». Et il prie toujours selon la volonté du Père, qui répond toujours aux prières faites selon sa volonté. Comme je l'ai dit la semaine dernière, si votre salut dépendait de vous, vous ne seriez jamais sauvé. Si le maintien de votre salut dépendait de vous, vous ne seriez jamais sauvé. Votre foi humaine ne peut vous sauver. Votre foi humaine ne peut vous garder. Par conséquent, vous avez besoin d'une foi qui n'est pas humaine, d'une foi surnaturelle, qui doit venir de Dieu. La foi de croire en l'Évangile est venue au départ de Dieu, et c'est une foi durable qui croit toujours. Lisons Jérémie 32, verset 40. Cela élargira votre compréhension de tout ça, parce que nous ouvrons l'Ancien Testament. Jérémie 32, verset 40. Écoutez cette excellente déclaration. C'est la déclaration à propos de la nouvelle alliance, l'alliance qui nous sauve. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien, et je mettrai ma crainte dans leur cœur. Écoutez ça. Afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Quelle déclaration! Voici la signification de cette alliance de salut éternel. Que Dieu ne se détournera jamais de nous, et qu'il placera en nous, en nos cœurs, une crainte de celui qui est surnaturel, pour ne pas nous éloigner de lui. C'est la promesse éternelle, d'un salut éternel, basé sur une foi durable. Cette foi n'échoue jamais. Aucun vrai chrétien ne sera abandonné. Vous me direz, attends une minute. L'Écriture n'est-elle pas pleine d'avertissements adressés aux gens pour qu'ils ne chutent pas? Comme on peut lire dans Hébreux 6 au verset 4, « Pour ne pas tomber et faire honte à Christ ». Comme nous l'avons lu dans 1 Timothée 1, ces gens qui se sont mués en naufragés de la foi, ne sont-ils pas prévenus à ce sujet? Ceux qui ont été livrés à Satan pour apprendre à ne pas blasphémer, ne servent-ils pas d'avertissement? Oui, bien sûr. Et ce sont des avertissements pour les faux croyants. Ce sont des avertissements pour les personnes non engagées. Ce sont des avertissements pour les personnes qui se sont rapprochées de l'Évangile et n'ont fait qu'une étude superficielle de l'Évangile et non une étude réelle. Il est donc très important pour nous de comprendre que la doctrine de la persévérance des saints ne veut pas dire que les personnes qui prient une unique fois ou acceptent Jésus ou se décident pour Jésus lors d'une expérience émotionnelle sont nécessairement sauvées et peuvent vivre de la façon qui leur chante. Non. S'ils sont vraiment venus à Christ, il y aura en eux une foi durable qui sera caractérisée par l'amour de la justice, l'amour pour le Christ et la haine du péché. Ce ne sera pas la perfection, mais cela leur indiquera la direction vers le chemin de la droiture. Eh bien, notre cher Pierre a compris le pouvoir de gardien de Dieu. Je vais vous dire, si Pierre avait pu perdre son salut, il l'aurait perdu. À quel point pouvez-vous vous rapprocher de Satan pour que le Seigneur vous regarde et vous dise « Arrière de moi, Satan !» Vous ne pouvez pas être plus proche que d'épouser les désirs de Satan. Mais Pierre a-t-il réussi à se relever de ça? Regardez dans Jean 21. Après tous ses reniements, et ce fut à 3 reprises. Si vous les comptez, il l'a fait 6 fois à 3 reprises. Mais lorsque vous lisez Jean 21, Jésus affronte enfin Pierre. Juste pour vous donner un contexte rapide. Jésus, après sa résurrection, a rencontré les apôtres. Jésus dit aux disciples, « Allez en Galilée et attendez-moi là-bas. » Eh bien, ils sont allés. Quand ils arrivent enfin, chapitre 21, verset 1, les disciples sont au bord de la mer d'Ibéride, et là-bas, il y a Simon-Pierre, toujours nommé en premier, parce qu'il est le leader. Thomas et Nathanaël, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, et deux autres, probablement Pierre et André. Ils étaient pêcheurs à la base. Et Simon leur dit « Je vais pêcher ». Et la langue grecque a un certain intérêt ici. Il dit « Je vais retourner à la pêche ». Et ce qu'il allait faire, c'était revenir à son ancienne carrière. Et bien sûr, ils sont sortis, sont montés dans le bateau, et n'ont rien pu attraper. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dérouté tous les poissons. Ils connaissaient ce lac comme le fond de leur poche. Ils ont grandi en pêchant là-bas. Ils savaient exactement à quelle heure de la journée et à quelle saison de l'année trouver du poisson, et dans quel coin. Et Jésus est apparu et a posé la question que vous n'oseriez jamais poser à quelqu'un qui a pêché toute la nuit et qui n'a rien attrapé. « Mes enfants, avez-vous quelques petits poissons à manger ?» Ils ont dit non. Et puis il ajoute cette chose ridicule. « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » C'est très insultant. Qu'est-ce que vous croyez? Que nous n'avons pêché que d'un côté? Ou peut-être que vous pensez que le bateau est resté sur place? Ou peut-être que vous pensez que le poisson différencie la gauche de la droite? Quel genre de proposition est-ce là? Mais comme toujours, Jésus a parlé avec autorité. Alors, ils ont fait ce qu'il a dit. Et ils ont eu tellement de poissons qu'ils ne pouvaient pas les remonter. Et alors ce disciple, que Jésus aimait tant, c'est Jean, qui a dit à Pierre, « Eh, c'est le Seigneur !» Et Pierre, béni soit son cœur. A-t-il eu une foi durable? Bien sûr. Était-il faible? Oui. A-t-il échoué? Oui. Mais bon sang, il s'est relevé. Verset 7. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque. Il était très pressé d'être racheté. Il détestait tant le péché qu'il voyait en lui-même. Il détestait sa propre désobéissance. Et il a tout simplement plongé, impétueusement. Et ils étaient à une centaine de mètres du rivage. Et bien sûr, le reste d'entre eux disait « C'est tout Pierre. Il nous laisse traîner cette énorme quantité de poissons sur le rivage, sans lui. » Ils sont arrivés, et le Seigneur a préparé le petit déjeuner. Vous savez comment le Seigneur prépare le petit déjeuner, n'est-ce pas? Le petit déjeuner. Ils ont emporté quelques-uns de leurs poissons. 153 poissons, dit le verset 11. Jésus leur dit « Venez manger ». Et aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ? » Ils savaient. Après qu'ils eurent mangé, au verset 15, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci ? » Quelle question provocante et chamboulante ! « M'aimes-tu plus que ces poissons, ces filets, ce mode de vie ? M'aimes-tu plus que ces autres disciples ? Tu as dit que si tout le monde m'abandonnait, tu ne le ferais jamais. Tu as dit que tu étais prêt à mourir avec moi. Tu ne l'as pas fait. Tu m'as renié. Et je suppose que la bonne question est, « Simon, fils de Jean, ou Jonas, est-ce que tu m'aimes ?» Et il lui répond, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus dit, « Paix, mes agneaux. Alors, fais ce que je te dis. Je t'ai appelé à prêcher et enseigner, et non à pécher. Et rappelez-vous, Pierre l'a renié trois fois. Alors le Seigneur le rachètera trois fois. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis, fais ce que je t'ai dit de faire. » Et il lui a dit une troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé, ça fait mal. Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répond, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Pourquoi ? Parce que Dieu lui-même a donné à Pierre une foi durable, un amour durable pour le Christ. Il était faible, oui, vacillant, oui, trébuchant, oui, mais jamais complètement, et jamais totalement, et toujours le premier à avoir soif d'être racheté. Et Jésus a dit, « C'est tout ce que je demande. » Paix, mes brebis, tu es le berger que je recherche. Quand tu étais plus jeune, verset 18, tu te saignais toi-même, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains. Il parlait de la crucifixion de Pierre. C'est ainsi qu'il est finalement mort. Et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Pierre, tu seras un martyr, et Pierre fut fidèle jusqu'à la fin. Et quand le temps de sa crucifixion vint, il ne les laissa pas le crucifier de façon habituelle, parce qu'il ne méritait pas, disait-il, d'être crucifié à la manière de son Seigneur. Alors, ils le retournèrent et le crucifièrent la tête en bas, une manière bien plus atroce de mourir. Il l'a enduré jusqu'à la fin. Il n'y a personne de mieux placé pour écrire sur la persévérance des saints, sur la foi durable, sur l'amour durable, sur le fait de rester fidèle jusqu'à la fin. Il n'y a personne de mieux placé pour écrire sur cela que Pierre, l'homme qui s'est repenti par des larmes, l'homme qui a tellement été blessé par ses propres échecs, qu'il a plongé à l'eau pour nager aussi vite qu'il le pouvait vers Jésus, celui qui était tellement sûr de son amour et sa foi authentique qu'il a demandé au Seigneur de lire son cœur, sachant que ce qu'il y verrait serait sincère. Il est donc approprié que Pierre nous parle de la foi persévérante. Revenons maintenant à un Pierre. Un dernier commentaire. Lorsque Pierre, dans le verset 5, dit « Vous êtes gardés par la foi », quand il dit au verset 8 « Vous croyez sans le voir », lorsqu'il dit au verset 9 « Vous obtenez le salut de vos âmes pour prix de votre foi », Pierre parle de son expérience personnelle. Il sait ce que c'est, malgré sa faiblesse, d'avoir une foi permanente et éternelle. Et c'est la foi qui appartient à toute personne qui est vraiment sauvée. Et comme je l'ai dit, à la fin, Pierre était fidèle pour proclamer Jésus-Christ face à la mort. Maintenant, dans les versets 3 à 9, il existe 6 choses à propos de notre protection. 6 éléments. Nous les aborderons la prochaine fois. Nous sommes protégés par une foi qui a 6 facteurs, 6 réalités spirituelles, dynamiques, qui s'opèrent. Et Pierre les déploiera pour nous la prochaine fois. Seigneur, merci pour cette vérité confiante, que notre salut est éternel, que la vie éternelle est véritablement éternelle, que ceux que le Père a choisis se conformeront à l'image de son Fils, que tous ceux qu'il convoque effectivement atteignent la gloire, que tous ceux qui sont prédestinés à l'image du Christ seront effectivement faits à son image, afin que tous ceux qui sont couverts par sa justice soient un jour devant toi dans le ciel sans reproche, afin que tous ceux qui sont sanctifiés soient glorifiés. Seigneur, nous te remercions de cette foi durable. Et bien que parfois nous luttons, trébuchons et tombons, et bien que nous péchons, et péchons sérieusement, péchons sévèrement, et péchons à maintes reprises, nous nous retrouvons en Pierre, courant en pleurs, désirant être obéissants, désireux d'être utiles, désireux d'être rachetés, désireux d'être pardonnés, désireux d'être lavés de nos péchés. Nous nous souvenons de Pierre, qui se trouvait au dernier souper, se vantant avec ignorance. Mais confronté à ses fautes, il dit « Seigneur, lave-moi de haut en bas ». Et c'est là l'essence même de cette foi durable. Il t'aime en dépit de la façon dont il agit. Il t'aime en dépit de sa faiblesse et de son échec. Il a besoin d'être racheté. Il désire se laver. Voilà l'image de la vraie foi salvatrice. C'est le cadeau que tu nous as donné et pour lequel nous te remercions. Nous te remercions et nous avons confiance dans le fait que nous persévérerons jusqu'à la fin, parce que ce don de foi est celui d'une foi durable. Et elle dure, parce que tu vis pour intercéder pour nous, parce que l'Esprit prie pour nous, et qu'à la fois le Fils et l'Esprit prient toujours, selon la volonté du Père. Que la volonté du Père, et que tous ceux qu'il donne au Fils, le Fils élèvera à la gloire éternelle, et que nul ne sera perdu. Nous te remercions, ô Dieu, que toute la Trinité soit réunie, pour nous soutenir, jusqu'à cette gloire éternelle, et nous nous réjouissons du nom du Sauveur. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.